Au bout de la plume, l'émission littéraire de Radio Alpes-Mancelles. Au bout de la plume, pour partager ensemble le plaisir d'écrire, la passion pour la lecture et faire partager vos talents d'écriture. Au bout de la plume, un rendez-vous hebdomadaire sur votre radio, à Radio Alpes-Mancelles 106.3 FM.
Elle a écrit un livre sur la maladie de Lyme. Cette personne, c'est Marie-Félix, donc pour en parler, nous la recevons. Marie-Félix, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Pour commencer, présentez-vous.
Alors, je suis donc Marie-Félix, j'ai 60 ans, je suis scientifique de formation et à l'âge de 20 ans, j'ai été contaminée par une tique qui m'a instillé donc des borrélies, peut-être aussi des co-infectants. Je suis restée 40 années avec cette maladie qui, pendant 35 ans, n'a pas été diagnostiquée. Parce que les tests, bien qu'ils aient été faits à deux reprises, se sont révélés négatifs. Je suis une fausse négative, c'est-à-dire que les tests n'ont pas positivé sur moi, ou en tout cas pas suffisamment pour que je puisse être rangée dans les malades de Lyme. Et donc, j'ai développé cette maladie qui, évidemment, s'est largement développée au point que je suis en phase dite tertiaire, c'est-à-dire que j'ai développé les signes dits ultimes de la maladie, en particulier les signes cutanés qui s'appellent l'acrodermite chronique atrophiante. Voilà, donc je suis une personne très impactée par la maladie. Cependant, depuis quelques années, de par une thérapie un petit peu particulière, eh bien, je me porte mieux. Ma vie a cependant été totalement ruinée par cette tique, ces borrélies et tous les symptômes donc avec lesquels j'ai dû vivre.
Alors en effet, vous avez écrit un livre d'ailleurs sur cette maladie de Lyme. Qu'est-ce que c'est concrètement comme maladie ?
Alors c'est une maladie infectieuse, c'est-à-dire que ce sont des bactéries qui sont instillées par ce réservoir qu'est la tique. Généralement, la tique n'instille pas seulement des borrélies, mais ce qu'on appelle des co-infectants, qui peuvent être des bartonelles, des babésies. Enfin, ça entraîne une babésiose, des rickettsies, enfin bref, d'autres parasites. Et eh bien, elle va s'enfouir profondément dans les tissus, de nombreux tissus, donc de nombreux symptômes. Alors, certains, je pense au docteur Bronstein, qui a fait un livre extrêmement précis sur la maladie, eh bien, lui ne considère pas tant la maladie comme une maladie infectieuse que comme une maladie auto-immune, car comme la borrélie va faire effondrer le système immunitaire, eh bien, au bout d'un moment, la personne qui a la maladie, plutôt que de tolérer le soi, c'est-à-dire tolérer ses propres tissus, va devenir agressive à l'égard de ses tissus et va développer donc un cortège de maladies auto-immunes. Voilà, donc c'est à la fois une maladie infectieuse, puisqu'on est infecté par une bactérie, mais au bout d'un moment et assez rapidement, on a une maladie ou des maladies auto-immunes.
Et quels sont les symptômes de cette maladie ?
Alors, les symptômes sont multiples, ce qui rend la maladie extrêmement difficile à diagnostiquer. Ils sont multiples et fluctuants. C'est-à-dire qu'une personne va se plaindre, par exemple, de problèmes articulaires pendant 6 mois et va se rajouter un problème, par exemple, ophtalmique et va se rajouter un problème de vertige et va se rajouter un problème de, je dis n'importe quoi, mais c'est certainement dans les symptômes parce qu'il y en a 70 de recensés, voire 100. Donc, on peut très bien avoir des douleurs de pied, puis des doigts de pied qui gonflent. Les symptômes sont quasiment infinis, ce qui fait dire à certains médecins, comment dire, prudents par rapport aux connaissances qu'ils ont de la maladie, ils disent « Lyme, c'est n'importe quoi ». Alors c'est n'importe quoi, effectivement, parce que l'on peut tout voir et ça fluctue. Si bien que les médecins qui ne sont pas suffisamment prudents et en alerte par rapport à cette potentielle maladie de Lyme peuvent assez rapidement ranger le malade allègrement dans la catégorie des malades qui font des maladies, on va dire, psychosomatiques, pour utiliser un mot fréquemment utilisé.
Et concrètement, quels sont les handicaps liés à cette maladie ?
Alors, les plus fréquemment décrits, ce sont des arthralgies, c'est-à-dire des problèmes articulaires avec éventuellement des articulations qui gonflent et une très grande fatigue. Ça, c'est vraiment les deux symptômes les plus fréquents. En ce qui me concerne, ces deux symptômes, je ne les avais pas ou extrêmement peu. Par conséquent, il ne faut pas s'arrêter à ça. Et un des moyens de détecter la maladie avec une bonne probabilité de diagnostic, c'est d'utiliser la grille symptomatologique du docteur Horowitz, qui est un spécialiste américain de la maladie et qui a fait une grille très facile d'utilisation qui est en fait une myriade de symptômes plus ou moins associés à la maladie de Lyme. Il y en a qui sont très révélateurs de la maladie de Lyme, par exemple les deux que je vous ai évoqués. Dans ce cas-là, vous aurez un fort coefficient. Par contre, des symptômes un petit peu moins fréquents, le coefficient sera moindre. Et vous avez donc comme ça une somme de symptômes que vous cochez ou non. De plus, il y a aussi tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire que si vous vivez proche d'une forêt ou si vous y allez fréquemment ou si vous avez un de vos proches qui a déjà contracté la maladie, une multitude de choses qui sont environnementales et qui vont correspondre aussi à un score. Et à terme, eh bien, vous additionnez vos points et vous obtenez donc un total qui vous fait penser ou pas à la possibilité d'avoir une maladie. Voilà comment on peut assez facilement s'apercevoir que l'on a la maladie. Alors, il y a aussi les tests, mais ça, c'est une autre histoire.
Et justement, comment se pose le diagnostic de cette maladie ?
Donc voilà, justement, donc la première chose, c'est la grille symptomatologique, mais c'est pas ce que qu'utilisent les médecins, parce que ça n'est pas ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé. En fait, ce sont encore les tests, ceux dont je vous disais qu'ils avaient été faussement négatifs pour moi, eh bien ce sont les tests qui sont encore utilisés. Il y en a deux. Un test dit de première intention, qui est le test ELISA, ELISA pour Lyme. Et si ce test est positif ou bien ambigu, on fera un deuxième test dit de confirmation, qui est le Western Blot. Mais vous avez bien compris que si vous ne réactivez pas de manière positive à l'ELISA, vous n'aurez pas accès au Western Blot. Et pour les médecins non avertis, c'est la procédure à suivre et ils ne se poseront aucune question. Or, il a été prouvé maintenant, que les tests ne sont pas fiables. Alors, c'était dit de belle lurette, si je puis dire, par les associations de malades, par les malades eux-mêmes, par une kyriade de médecins qui, effectivement, voyaient que les tests n'étaient pas fiables, dont des médecins biologistes spécialistes de la maladie de Lyme, qui voyaient arriver dans leur laboratoire de très nombreux échantillons sanguins pour tester la maladie et qui s'apercevaient que des personnes qui avaient tous les symptômes de la maladie ne réagissaient pas à l'ELISA, c'est-à-dire avaient un ELISA négatif. Et comme ils étaient suffisamment aguerris, ces médecins biologistes, aux ambiguïtés du test ELISA, ils faisaient acheter le test Western Blot, qui à ce moment-là n'était pas remboursé à leurs patients, et faisaient un Western Blot pour s'apercevoir que le Western Blot était positif alors que l'ELISA était négatif. Ce qui prouve donc que l'ELISA n'est pas du tout fiable et qu'une multitude de malades, dont je faisais partie, passent entre les mailles du filet, c'est-à-dire sont déclarés non malades alors qu'ils le sont. Donc ça reste le protocole à suivre, bien qu'il soit prouvé. Et maintenant, il a été récemment prouvé par le docteur Oscott, je crois, de l'université d'Hopkins, que les tests ne sont pas fiables. Ça ne marche pas. Il y a une personne sur deux, à peu près, ou 40% pour les plus optimistes, de personnes qui passent à travers les mailles du filet. Ce qui est extrêmement dangereux, parce qu'après, on est malade et la maladie s'ancre.
Et rappelez-nous, quelle est votre histoire à vous face à cette maladie ?
Alors, en ce qui me concerne, donc, j'avais des parents qui étaient médecins, particulièrement tôt informés sur cette maladie, mais avec des connaissances trop rudimentaires pour comprendre que leur fille, qui avait des symptômes pas les plus patents, et de surcroît, on n'avait pas vu, il a existé, mais on n'a pas vu tout de suite, on ne s'est pas alerté de l'érythème migrant. Donc, ils n'ont pas décelé la maladie sur moi. Et c'était aussi des forestiers. Donc, c'était reconverti au métier de forestier. Ils avaient de raison d'être avec une assez bonne connaissance, bien qu'on était dans les années 80 de la maladie, enfin d'être un petit peu sous alerte. Mais je n'ai pas eu les signes les plus patents. Et puis, ils avaient des connaissances trop rudimentaires. Ils attendaient la fièvre que je n'ai pas faite ou que l'on n'a pas détectée. Donc, moi, ça a été des douleurs de type sciatique, douleur de bras, tout ça inexpliqué parce que les examens, évidemment, n'aboutissent à rien. Après, je suis devenue neuro-Lyme, c'est-à-dire avec des vertiges, avec des bourdonnements d'oreilles, avec des problèmes ophtalmiques. J'ai perdu tous mes cheveux. Enfin, je crois que je ne vais pas avoir suffisamment de temps pour développer tous les symptômes que j'ai pu développer. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que la grille symptomatologique du docteur Horowitz a explosé chez moi. J'avais un score absolument atterrant.
Et sinon, vous avez écrit un livre justement sur cette maladie de Lyme. Déjà, pourquoi ?
Alors, pourquoi ? C'est parce que j'ai été élevée dans l'idée d'une médecine occidentale irréprochable, totalement tournée vers le patient et avec un seul objectif, c'est de le soigner au mieux. Et lorsque j'ai essayé, je me savais de stade tardif, mais bien entendu, j'ai essayé de me soigner vers les spécialistes les plus renommés. Et lorsque j'ai essayé de me soigner, je me suis aperçue que les consultations avaient quelque chose d'incongru là aussi, d'assez ubuesque même de temps en temps. Et en réalité, j'avais découvert, sans le vouloir, ce qu'on appelle le scandale de la maladie de Lyme, c'est-à-dire donc que, eh bien, oui, les malades ne sont pas soignés correctement. Il y a un scandale sanitaire évident. Et pour prouver d'une certaine manière qu'il y a quand même un problème à la thérapie qui est faite à l'égard des malades de Lyme, j'appuie mon livre sur, eh bien, la plus grande chance qu'il a eue, c'est-à-dire le rapport parlementaire, l'enquête parlementaire qui a été effectuée en 2021 par nos élus, donc, et qui pointe du doigt ce manquement énorme de soins à l'égard des malades de Lyme. Voilà, donc je me suis aperçue d'un scandale sanitaire et je me suis dit, mais enfin, j'étais incapable de penser qu'on pouvait rencontrer de tels problèmes dans la médecine française, il faut donc que je relate mes consultations. C'est trop fou, ce que je vis est trop fou. Jamais le scandale sanitaire était absent des consultations, il y avait toujours quelque chose qui était complètement fou, complètement incongru. On pouvait me dire, eh bien, la prochaine consultation, c'est peut-être pas en France, c'est en Espagne. Parce que le problème, c'est que comme je soigne Lyme différemment de ce qui nous est imposé, là, je parle des médecins les plus informés sur la maladie, hein, vraiment des pointures qui sont en relation avec leurs homologues étrangers. Eh bien, voilà, je suis poursuivie par le Conseil de l'Ordre, donc je vais peut-être être radiée. Donc, vous viendrez me consulter dans tel ou tel pays dans lequel, entre guillemets, je vais me réfugier et je continuerai à soigner Lyme parce que les malades ont besoin de moi. Donc voilà le type de consultation que j'avais. Je ne pensais pas qu'on pouvait vivre ça. Donc ça a été l'axe de mon livre. Et ensuite, 2 années plus tard, comme j'allais mieux, eh bien, j'ai interviewé ces médecins, tous les médecins, autant ceux qui suivent de manière stricte les recommandations de la Haute Autorité de Santé que ceux qui s'en départissent un petit peu dans l'idée de mieux soigner leurs malades. Donc je les ai interviewés et on va dire, pour simplifier, que sous couvert d'anonymat, ils se sont confiés. Voilà, ça c'est l'axe. C'était vraiment ce qui me semblait absolument indispensable de témoigner. Puis après, j'ai enquêté, comme on peut le faire, en lisant les livres des scientifiques, en lisant les livres des médecins, en allant sur Internet, en écoutant des émissions, etc. Donc j'ai fait une espèce d'enquête interne. Puis j'ai relaté aussi, ça me semblait indispensable, l'horreur que peut représenter une maladie de Lyme, parce que ça ruine vraiment une vie. Je viens de rencontrer quelqu'un qui m'a pris un livre au moment d'une signature et qui m'a expliqué qu'elle préférerait un cancer. Ça donne mesure un petit peu de ce qu'on peut vivre. Sans parler de toutes les personnes qui se suicident.
Et comment qualifier justement ce livre du point de vue littéraire ?
Alors, je dirais que c'est un témoignage et une enquête. Voilà, je suis littéraire, j'adore lire. J'ai fait attention beaucoup à ça. Et je vais terminer avec un petit peu une confidence. C'est que la maladie de Lyme m'empêche, et j'ai les larmes aux yeux en le disant, la maladie de Lyme m'empêche de faire ce pourquoi je crois je suis faite, ou en tout cas ce qui m'anime, c'est-à-dire la musique. Et d'écrire me permettait d'avoir une oreille musicale sur l'ordonnance des phrases et leur musicalité. Et ça a été quelque chose de porteur pour moi, parce que justement, je ne dis pas que ça remplaçait, parce que rien ne remplace pour moi, mais il y avait un petit côté créatif dans l'ordonnance et la musicalité des phrases, autant que je pouvais le faire, parce que je ne suis quand même pas un écrivain.
Alors sinon, ce livre, vous l'avez d'ailleurs appelé Lyme, « Si les malades savaient, si les médecins pouvaient », pourquoi ce titre ?
Oui. En référence, bien sûr, à voilà, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc ça, bien sûr, pour la sonorité et cette phrase, cet adage qu'on a tous en tête. Si les malades savaient, parce que la plupart du temps, hélas, ils sont ignorants de ce scandale sanitaire, donc ils ne prennent pas en charge leur thérapie. Et c'est ce qu'on fait dans d'autres maladies. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont obligés d'être responsables de leur maladie, de leur thérapie, de leur santé. C'est tout à fait effrayant, mais il faut être extrêmement informé. Donc si malade savait et si médecin pouvait, là c'est un peu en honneur de tous ces médecins qui essayent de nous soigner et qui sont inquiétés, poursuivis, voire radiés. Si les médecins seulement pouvaient nous soigner, peut-être est-ce qu'on se porterait mieux, mais on ne les laisse pas faire.
Alors ce livre, vous nous avez dit comment vous l'avez écrit. Comment ça s'est déroulé pour l'édition ?
Pour l'édition, j'ai eu la chance d'avoir deux éditeurs à compte d'éditeur qui acceptaient donc de prendre en charge le manuscrit. Et j'ai pu aller donc chez cet éditeur qui s'appelle Rue de Seine et qui a une collection particulière qui s'appelle la collection Caban.
Quel est le retour d'ailleurs de ce livre ?
Il est bon. Pour l'instant, il est bon. À mon échelle, bien sûr, puisqu'on en est à la troisième réimpression en 2 mois et demi. Dès le 2e mois et demi, on a eu donc nécessité de réimprimer. Donc oui, pour lui, ça se passe très bien. Maintenant, je vais terminer en disant que d'aller vers les malades lorsque je fais les signatures, de voir le désespoir dans lequel certains sont, qui correspond au désespoir dans lequel j'ai pu être et dans lequel je serai peut-être, ça donne vraiment envie de porter le livre aussi loin qu'il pourra l'être.
Et d'ailleurs, où peut-on l'acquérir ?
Alors, il est dans toutes les librairies, normalement. Enfin, en tout cas, il est disponible dans les librairies. Il est diffusé donc par Dilisco, mais je profite donc de votre antenne pour dire que Dilisco a eu des petits soucis début juillet. Et il est possible qu'encore pendant un petit moment, il soit un petit peu difficile d'accès. C'est-à-dire que Dilisco a du mal à honorer les commandes des libraires. Mais je crois qu'il est encore facilement accessible sur les plateformes. Et puis la majorité des libraires doivent l'avoir.
Alors sinon, quels sont vos projets ?
Me bien porter, le porter le mieux possible. Je suis toujours à la guerre, enfin je guette toujours d'autres solutions parce que je sais que la Borelli a de multiples armes dans son sac et que la probabilité que je sois malade demain existe ou après-demain. J'ai une épée de Damoclès au-dessus de la tête et donc il faut toujours avoir dans son sac des armes d'avance sur la Borelli. C'est un duel permanent. Donc la perspective de me porter correctement et de pouvoir profiter de la vie, ce que je n'ai pas fait pendant plus de la moitié de ma vie, me suffirait. C'est mon projet. Alors il y a le projet au-dessus de tout, ce qui serait de reprendre la musique, mais bon, on verra.
Est-ce que vous avez des contacts à nous communiquer pour ceux qui souhaitent plus de renseignements sur vous, votre travail et notamment sur ce livre sur la maladie de Lyme ?
Alors j'ai un site Facebook qui s'appelle Lyme. Livre de Marie-Félix, et sinon, les recommandations que je pourrais donner, c'est d'aller vers les associations de personnes qui portent la maladie de Lyme, et elles sont très nombreuses.
Un mot à rajouter ?
Déjà, je vous remercie beaucoup pour cette interview. Un mot à rajouter. Je pourrais peut-être donner du courage donc aux personnes qui souffrent de la maladie en disant que je vois qu'il y a des solutions, je le constate pour moi d'une part, je le constate aussi en fréquentant d'autres personnes qui me disent bien se porter. Les solutions ne sont pas les mêmes pour tous, hélas. C'est pas on prend une dose d'antibiotique et ça va marcher comme pour une grippe par exemple. Enfin une grippe, on ne soigne pas par antibiotique, mais pour une maladie, c'est pas une maladie infectieuse normale, mettons. Mais je vois des rémissions très longues, je vois des gens qui ne donnent pas l'impression qu'ils sont malades. Donc il y a des solutions. Le souci, c'est qu'il faut la trouver pour celle qui nous convient.
Alors Marie-Félix, je vous remercie et j'espère qu'à travers cet échange, nos auditeurs en sauront plus sur cette maladie de Lyme et qu'ils n'hésiteront pas à acheter votre livre. Je vous dis au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone. Narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stared by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People chair. No one dared disturb the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words, like silent raindrops, fell and echoed the wells of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispers.